Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
La Côte d'Ivoire vient d'annoncer avoir gelé des avoirs de 29 personnes en lien avec le terrorisme. Est-ce que vous êtes au courant?
Oui, l'État a communiqué officiellement, le parquet a communiqué officiellement sur sa décision de geler des avoirs parce que faut comprendre que le terrorisme, c'est aussi le financement du terrorisme. Ce n'est pas que les gens mènent des actions pour qu'ils recrutent, il faut de l'argent. Et donc le rôle de l'État aussi, les enquêtes, regardent aussi cet aspect financier. C'est les flux financiers qui peuvent approvisionner les circuits ou les fonds des groupes terroristes. C'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire, pour enquête, a décidé de saisir 29 comptes.
Donc les comptes sont gelés, les personnes sont aussi en prison?
Non, pour l'instant, c'est les comptes qui sont gelés. De toute façon, la justice a communiqué si le compte est gelé. Naturellement, si les comptes sont gelés, c'est qu'il y a au moins de fortes suspicions. Et donc la justice va continuer son travail. Mais si on vous gèle des comptes, c'est que... on est d'accord que vous avez un lien avec les groupes terroristes, la justice va poursuivre son travail.
Mais comment est-ce que l'État a pu savoir que ces personnes-là ont un lien avec le terrorisme?
Oui, parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur toute l'action des groupes terroristes. Quand on capture des terroristes qui écoutent des conversations, qui suivaient aussi les flux financiers, qui suivaient le blanchiment d'argent, et donc tout ça permet à l'État d'avoir, dans une certaine mesure, l'idée de l'activité sur certains comptes.
Quels sont les profils de ces personnes-là?
On trouve le tout. Le financement du terrorisme, il concerne tout le monde. Vous pouvez avoir des hommes d'affaires qui, par leurs affaires, facilitent le blanchiment d'argent. Vous pouvez avoir même des religieux qui, sous le couvert de leur religion, financent les terroristes. Vous pouvez avoir même des ONG.
Mais vous, en tant qu'expert, quand vous avez appris ça, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce à dire que la menace terroriste est réelle contre la Côte d'Ivoire?
La menace, elle a toujours été réelle contre la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'attaque d'ampleur qu'on doit considérer que la menace est derrière nous. Non, la Côte d'Ivoire est toujours dans le deuil du cyclone. Elle est toujours surveillée et enviée par les groupes terroristes.
Maintenant que des avoirs de certaines personnes sont gelés, comment est-ce que la décision se fait?
C'est une décision de justice. Après des enquêtes, le parquet national financier ou le parquet de lutte contre le terrorisme va essayer de trouver, à partir des preuves qu'ils vont rassembler, ils vont maintenant décider de geler des comptes. C'est une décision de justice suite à des enquêtes qui vont mobiliser les renseignements et tout ça pour permettre de voir que des comptes sont suspects ou des comptes ont alimenté les activités terroristes.
Mais est-ce que dans ce cadre-là, il n'y aurait pas simplement des dénonciations calomnieuses? Peut-être quelqu'un a une dent noire contre un autre et puis bon, il va en profiter aussi pour faire une dénonciation calomnieuse contre cette personne-là?
Mais c'est pour ça qu'il y a un travail d'enquête. C'est pas parce que vous déclarez que quelqu'un a financé le terrorisme, c'est pas parce que vous dites le nom de quelqu'un dans une affaire qu'il est coupable. Dans un état de droit, c'est cela. Voilà. Et donc, faut conserver la présomption d'innocence des gens jusqu'à ce que la justice prenne une décision. Là, on en parle parce que c'est une décision de justice. Mais la présomption d'innocence, c'est le fondement du droit. C'est pas parce que vous êtes accusé ou vous êtes suspecté que vous êtes coupable.
Alors, les effets d'une telle décision sur la population, quand la population a appris que il y a des personnes en lien avec le terrorisme dont les avoirs ont été gelés, quel effet ça fait?
Ça montre d'abord du côté positif que l'État prend au sérieux cette question, que les enquêtes se mêlent, que le renseignement travaille, que la justice est mobilisée. Maintenant, l'envers du décor, c'est que nous sommes toujours sous la menace et il faut qu'on garde une certaine vigilance.
Dans ce cas, vous, en tant qu'expert, quel conseil vous donnez aux citoyens lambda que nous sommes?
De collaborer avec la police, de ne pas hésiter une seule fois à signaler quand il y a des mouvements suspects ou quand ils sont une activité économique suspecte ou quand ils sont qu'il peut y avoir du blanchiment d'argent. Il faut toujours collaborer avec les autorités qui seront à même, comme dans ce cas-là, de poursuivre les enquêtes.
Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit qu'il se cacherait aussi des religieux, des personnes d'ONG parmi ces présumés terroristes dont on se méfie. Alors, comment est-ce que des gens qui disent parler de la part de Dieu et aussi qui disent œuvrer pour le social peuvent et puis comme ça changer en faveur d'un tel phénomène aussi sinistre que le terrorisme?
Non, parce que la stratégie des groupes terroristes, c'est pas que de l'attaque. L'attaque, que vous voyez, c'est la fin du processus. Il y a un processus de séduction, il y a un processus d'adhésion. On peut adhérer à une cause religieuse en ayant une certaine lecture de la Bible, du Coran ou de n'importe quel livre saint que vous emmenez à vous radicaliser. La deuxième chose, c'est que vous, socialement, vous pouvez voir qu'une ONG liée à tel ou tel groupe réussit à apporter des réponses sociales dans votre environnement que l'État n'arrive pas à faire. Et donc tout ça permet aux groupes terroristes de prendre pied et d'utiliser ces moyens-là pour séduire et pour s'implanter.
Alors comment un tel phénomène, le terrorisme, a pu, je vais dire, conquérir le monde? On parle un peu partout de terrorisme. Pourquoi?
Il est aussi vieux que le monde, j'ai envie de dire. Le terrorisme a utilisé la peur pour imposer ses idées. Ça a été une même fois fait. Voilà, aujourd'hui, ça prend une nouvelle ampleur parce que il y a une sorte de mondialisation aussi des groupes terroristes et parce que dans certains pays, il y a des facteurs qui vont le favoriser. Ça peut être des facteurs sociaux, la pauvreté, les tensions entre différentes composantes de la société. Ça peut être aussi une vraie perception, une vraie conviction de la religion.
Alors, vous avez dit qu'on utilise la peur pour vouloir imposer ses idées. Mais pourquoi ne pas utiliser les arguments, les débats pour vouloir imposer ses idées?
Parce que chacun choisit ses moyens.
Mais avec le terrorisme, le monde est vraiment en danger.
Bien sûr, nous sommes en danger. La preuve, il y a plusieurs de nos États qui sont aujourd'hui quasiment délités de France. Ce qui se passe dans le Sahel, ça s'explique en grande partie par cet extrémisme violent qui a désagrégé les États, qui a affaibli le pouvoir des dirigeants élus et qui a donné des prétextes à des putschistes.
Professeur Arthur Banga, je vous remercie.
Merci.